Sachez, monsieur Molière, que je vous parle sous le sceau du secret le plus absolu.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Je montrerai ma tête au peuple, alors vaut la peine.
C'est une émission qui s'appelle Hit Parade, la parade des succès.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes bien dissipé aujourd'hui. Bonjour Jean-Luc Lemoyne.
Bonjour Stéphane.
Et bonjour David.
Bonjour Stéphane.
Et bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes avec nous pour nous parler encore et toujours de l'histoire de la cuisine.
On ne se refait pas.
Mais non. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient donc pas à la même époque, mais qui ont cependant un point commun. Oui, non, c'est pas d'aimer Simon et Garfunkel, mais ils sont montés sur le ring. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par un comédien hors pair qui, s'il n'a pas eu à lutter pour s'imposer sur grand écran, a lutté pour de vrai et bien avant. Je vous raconte le catcheur devenu acteur, Lino Ventura. Puis un écrivain qui a mis de la boxe dans ses écrits, qui l'a pratiqué aussi. L'aventurier Jack London, qui n'a jamais pris de gants pour nous raconter le monde tel qu'il le voyait. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc Lemoyne qui allez prendre le mort et dresser le portrait de notre troisième personnage qui est monté sur le ring lui aussi.
Oui, il a pris des coups, il en a donné, mais il a une bonne droite. Bon, certains diront une droite molle. Il a été premier ministre. Non, c'est pas Jean Castex, mais Édouard Philippe, le boxeur du Havre que je vous raconte aujourd'hui.
Et aussi, ils prennent parfois des gants, mais pas tout le temps. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bah oui, moi aussi je monte sur le ring aujourd'hui, parce que je voudrais parvenir à décrocher la timbale des objets étranges tombés du ciel. Après l'histoire racontée par Stéphane de la météorite tombée sur Anne-Elisabeth Hodges, et celle racontée par vous, Jean-Luc, du contenu surgelé des toilettes d'avion tombée sur Rajnani Gaud, eh bien je relève le gant et moi, je vais vous raconter une mystérieuse pluie de viande sur le Kentucky.
Dommage que c'était pas au-dessus de chez moi.
Ouais. Il manger, il
pas sûr,
qui tombe dans le jardin, ah, vous imaginez.
Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, et souvent la sienne. Quoique aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas vraiment une passion.
Non, ni une passion, ni une obsession, c'est la chaise électrique.
Voilà.
Une méthode pour tuer les gens, de façon qui se voulait humaine. En fait, c'est ça.
Mais parfois, ça rate. Hein.
Ouais, c'est pas, je raconterai des choses assez sordides. Oui.
Alors, les origines, c'est en toute fin d'émission, et juste avant, comme dirait l'autre.
Mes aïeux, quelle époque,
ça s'est passé dans le passé, mais c'est toujours présent dans le présent. Aujourd'hui, on remonte au 19e siècle pour parler cuisine avec vous, Olivier.
Oui, et ce qui est peut-être l'un de mes produits préférés, je pourrais en manger tous les jours, la pomme de terre, l'avènement de la pomme de terre qui a rendu bien des services à la France.
Oui. Bah, ça a même commencé avec...
Avant,
en 1785.
Bien sûr, ça commence...
On est au 18e.
Mais
avec
c'est
Louis
XVI. C'est des moments balbutiants, c'est-à-dire qu'au 18e, la pomme de terre, elle est là, mais les Français n'en veulent pas.
Ben, c'est pour ça, pour la faire aimer.
Ben, je vous raconterai.
Ah, bah oui. Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h45.
Vous avez tout dit, Stéphane ?
Non, je voulais vous dire vraiment que j'adore vous retrouver tous les jours sur Europe 1, Jean-Luc.
Oh, c'est gentil, mais moi aussi, Stéphane. Mais vous n'y échapperez quand même pas. Eh oui, tout à l'heure, ce sera Burn to be Alive. Est-ce que le Stéphane Bern d'Europe 1 est le même Stéphane Bern que celui de Secret d'Histoire ? Je testerai sa culture historique grâce à ce quiz face à Clémentine. Rendez-vous dans trois quarts d'heure.
Souvent vous m'inquiétez, Jean-Luc. Quoi qu'il en soit, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il est un tonton flingueur dont le talent n'a d'égal que l'imposante carrure et l'incroyable carrière. Si on le connaît au cinéma, c'est sur les rings parisiens qu'il a commencé à jouer et à balancer des coups pour de vrai. Je vous raconte le catcheur, devenu acteur, Lino Ventura. Nous sommes en 1963. Ce mercredi 27 novembre sort sur les écrans un film qui va marquer la mémoire collective à jamais. Un film que la télévision n'a cessé depuis de diffuser, de rediffuser, de re-rediffuser.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Vous avez reconnu les tontons flingueurs et l'une de ces scènes d'anthologie portées par l'acteur Lino Ventura. S'il a tourné 75 films dans sa carrière, le rôle de Monsieur Fernand reste pour beaucoup le plus marquant. Les répliques imaginées par Michel Audiard y sont pour beaucoup, mais Lino Ventura, avec ses épaules carrées et sa densité physique, fait des merveilles dans ce rôle de truand à l'ancienne qui règle ses comptes en distribuant des bourre-pifs.
Ah oui, t'as déjà vu ça ? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
Je vais lui faire une ordonnance.
Et une scellée. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
Mais si nous sommes nombreux à connaître par cœur certaines des répliques les plus célèbres des tontons, il y a un détail que l'on ne peut pas voir. Dans l'une des scènes de bagarre, Lino Ventura affronte l'acteur Henri Cogan, un costaud qu'il finit par expédier d'un bond direct à la mâchoire. À l'écran, la scène s'arrête là. Mais sur le plateau, ce jour-là, Ventura y va d'un « ça, c'est pour ma jambe », comme le racontera plus tard Cogan. Cette petite phrase, passée quasi inaperçue sur le tournage, est pourtant une allusion au passé des deux hommes. En 1963, cela fait exactement 13 ans qu'Henri Cogan a bien malgré lui brisé la jambe et de fait la première carrière de Lino Ventura, celle d'un champion d'Europe de catch. Mais puisqu'on parle de cinéma, rembobinons la pellicule pour revenir aux racines et à l'enfance de Lino Ventura. Les premières sont italiennes. Angiolino Ventura naît juste après la guerre en Italie à Parme en 1919. Mais son enfance, elle, est celle d'un gamin qu'on arrache bientôt à la région de l'Émilie-Romagne de ses jeunes années. Alors qu'il n'a que 8 ans, sa mère rejoint la France pour y retrouver son mari, représentant de commerce à Paris. Les retrouvailles sont brèves. Un bon matin, le père de Lino disparaît tout simplement, sans laisser d'adresse. Pour le petit Lino, c'est une déchirure. Une de plus. À Montreuil, ou dans le 9e arrondissement de Paris, pour lui, les choses ne changent guère. Dans la cour de l'école, le racisme ordinaire est une constante. Bien des gamins se moquent du petit Rital, de son accent et de sa tête de parmesan. Une formule qui le marque au fer rouge et qui déclenche parfois quelques belles bagarres à la récréation. Alors, quand il ne travaille pas comme groom ou livreur pour aider sa mère à joindre les deux bouts, Lino passe le plus clair de son temps libre avec les copains de son quartier, près du square Montholon. C'est là qu'un lutteur professionnel, l'Autrichien Fred Oberlander, remarque un jour les épaules larges et la carrure ramassée du jeune Ventura. Et l'aventure commence là. À 16 ans, Lino Ventura n'est pas immense, il mesure 1m76, mais il est solide et dense, avec des capacités athlétiques hors du commun et un physique idéal pour la lutte. Fred Oberlander le prend alors sous son aile. Entre deux petits boulots, Lino découvre le monde de la lutte gréco-romaine et s'entraîne avec la soif de ceux qui veulent s'en sortir, sur les tapis de la salle des Gobelins d'abord, puis du côté de la porte d'Italie. Il y apprend le goût de l'effort, de la gagne et de l'exploit physique bien sûr, mais aussi l'humilité et la fraternité qui règne entre les lutteurs. Quelques temps plus tard, en 1939, la guerre vient interrompre le début de carrière du prometteur Lino Ventura. Toujours italien, il se retrouve enrôlé malgré lui dans les troupes de Mussolini, mais déserte à la première occasion, en 1943, pour retrouver Paris et sa compagne. Le jeune homme retrouve aussi le chemin des salles de sport à la Libération, mais en se tournant cette fois vers une autre discipline qui parie sur le grand spectacle, les prises audacieuses et déjà une forme de scénarisation et de chorégraphie qu'on retrouve aujourd'hui, le catch. À un moment où le grand public a besoin de s'amuser et d'oublier les années noires et l'occupation, la lutte est sur le déclin. Le catch, lui, s'épanouit. Le catch est à la fois un sport et un show. Les spectateurs en veulent pour leur argent et Lino Ventura leur en donne. Sur le ring, il devient Lino Borini, reprenant le nom de jeune fille de sa mère et joue déjà. Il se compose un rôle de méchant, de teigneux, agressif, impulsif et violent. Entre 1945 et 1950, sa carrière est aussi spectaculaire que sa grande spécialité, la manchette. Solide, tenace, celui qu'on surnomme désormais la fusée italienne écume les salles parisiennes, du Cirque d'hiver à la Salle Wagram. En février 1950, Ventura atteint le Graal en remportant le championnat d'Europe dans sa catégorie, celle des poids moyens, et pour son pays, l'Italie, dont il gardera toute sa vie la nationalité. En bon italien, Lino Ventura devait le savoir, il n'y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpeienne. Le 31 mars 1950, la fusée italienne remet son titre en jeu face à un adversaire on ne peut plus coriace, le français Henri Cogan, qu'on surnomme l'assommoir. Pendant 30 minutes, sur le ring installé au centre du cirque d'hiver, l'assommoir et la fusée italienne puisent généreusement dans le répertoire particulièrement riche de baffes en tout genre, jusqu'au moment où Henri Cogan finit par enfourcher son adversaire, c'est-à-dire qu'il le soulève avant de le projeter à travers le ring. Surpris, Lino Ventura n'a pas le temps de préparer sa chute, roule sous les cordes et atterrit dans les chaises installées au premier rang avec une double fracture ouverte à la jambe en prime. Très vite, le verdict tombe à 31 ans. Sa carrière de catcheur est terminée. La mort dans l'âme, Lino Ventura continue bien de fréquenter les salles d'entraînement pour donner des conseils aux petits jeunes de son écurie ou organiser des rencontres. Mais ses jours de gloire sont derrière lui. Alors, en attendant, il épaule son épouse dans la petite société qu'ils ont créée voilà quelques années. Une fabrique, ça ne s'invente pas, hein, de layettes pour nourrissons du baby-boom. Gros dur, cœur tendre, c'est ce personnage-là qui va vite sans le vouloir séduire le cinéma. Son passage du ring au grand écran s'est presque fait contre son gré. En 1953, le cinéaste Jacques Becker cherche une gueule, un costaud capable de tenir le choc face à l'immense Jean Gabin pour son nouveau film « Touchez pas au Grisby ». Un ami glisse son nom. Jacques Becker est conquis, mais pas Lino Ventura, peu convaincu par ce monde de saltimbanques qui ne lui paraît pas bien sérieux. Au culot, il réclame alors un cachet d'1 million d'anciens francs tout de même. Contre toute attente, c'est oui. L'année suivante, Touchez pas au Grisby sort en salle et le grand public adopte aussitôt cette grande baraque à la voix éraillée, ce costaud têtu et grognon à ses heures. D'abord cantonné au rôle de gangster ou de gros dur, comme dans Le Gorille vous salue bien en 1958, il ne tarde pas à composer des personnages plus complexes, notamment celui d'un brigadier des forces françaises libres dans Un taxi pour Tobrouk en 1961.
Vous n'allez pas nous déballer toute votre carte postale, non? Couplet sur Paris, là 2 ans qu'on en croque. Ça revient comme du chou. Les petits bistrots pas chers, les grands billes du samedi, la place du Tertre, le toit du pont de l'Allemagne. Et dans 5 minutes, il y en a qui va sortir un ticket de métro ou des photos de l'affaire du trône. Non, pour moi, tout ça, c'est râpé. Il n'y a plus de Paris. Il y a grosse Paris, un point, c'est marre.
Seriez-vous insensible à la nostalgie, brigadier Dudu?
Non, mais j'aime pas penser à reculons, je laisse ça aux lopes et aux écrevisses.
Puis 2 ans plus tard, je le disais évidemment au début du récit, dans le cultissime Les Tontons Flingueurs, une parodie de film noir, où il retrouve donc son ancien adversaire et ami malgré tout, Henri Cogan. Les grands rôles s'enchaînent dans les années 60, comme celui du Plouc dans 100 000 dollars au soleil de Henri Verneuil, du commissaire Le Goff dans Le Clan des Siciliens ou de l'inoubliable Philippe Gerbier, le résistant de L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville en 1969.
Alex, regardez dans la salle à manger ou dans la cuisine si vous trouvez quelque chose.
Mais ce n'est pas possible. Je vous en supplie, c'est un assassinat.
Nous sommes ici pour tuer de toute façon, vous êtes d'accord?
Je suis d'accord, mais pas comme ça. Il faudrait...
Oui, je sais, la manière.
Mais au-delà de ses grands rôles dramatiques, l'ancien catcheur accepte parfois de jouer dans des comédies comme L'Emmerdeur, où son duo avec Jacques Brel fait des merveilles. Pudique, discret et presque timide à la ville, Lino Ventura est un homme intègre dans la vie comme dans ses rôles qu'il choisit avec soin. Lino Ventura n'a pas d'agent, mais il a une règle d'airain. Ne jouer que des personnages dont il n'aurait pas honte de serrer la main. Parfois, le colosse accepte de fendre un bout d'armure, comme dans La Gifle de Claude Pinoteau, avec son personnage de père séparé, dépassé par son époque et par sa fille, interprété par Isabelle Adjani.
Tu veux quoi?
La liberté!
C'est pas un métier, ça. Mais tu as raison, tu vois. Ce que je viens de dire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est parce que je vais pas bien. Parce que depuis une heure, de la façon dont tu me parles... Tu es vraiment n'importe qui.
Des gifles, des claques, Lino Ventura en aura donné sur les rings, mais aussi aux spectateurs venus l'admirer dans ses œuvres tout au long de sa carrière. Une carrière et une vie qui s'achèvent en 1987. Terrassée par une crise cardiaque, la fusée italienne s'envole une dernière fois. Ce jour-là, le cinéma perd un comédien rare. Les Français perdent, eux, un homme à qui ils auraient été fiers, eux aussi, de serrer la main.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Lino Ventura avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un journaliste qui lui dédie un livre coup de poing pour reprendre ses mots. Bonjour Philippe Lombard.
Bonjour Stéphane.
Philippe, vous retracez le parcours de Lino Ventura dans votre biographie Livre coup de poing, donc en référence à son passé que je viens d'évoquer. Pour vous, sur le ring, Ventura jouait déjà? Est-ce que dans le catch, il y a une part de cinéma?
C'est-à-dire que le catch qu'il pratiquait à cette époque n'était pas encore le catch très spectaculaire, mis en scène, qu'on a connu par la suite. Donc c'était une déclinaison de la lutte. Et donc il y avait vraiment, on savait pas qui allait gagner, quoi. Donc c'était des vrais combats. Donc il était vraiment, c'était vraiment plus un athlète, un sportif qu'un comédien, je dirais, sur scène.
Mais est-ce qu'il était aussi à l'aise sur le ring qu'il l'a été plus tard sur les plateaux de cinéma?
C'est-à-dire que dans les deux cas, il était préparé, quoi. Il était très professionnel dans ce qu'il faisait. Effectivement, quand il savait que quand il était face à un adversaire sur le ring, comme il disait, quand on est sur un ring, si on perd, c'est pas à cause du terrain, c'est pas à cause de la balle qui glisse ou parce qu'il pleut. Il dit non, c'est parce que vous êtes face au gars et vous avez pas fait ce qu'il fallait. Donc, il se préparait toujours pour affronter son adversaire et il se préparait aussi pour tourner ses films. Très bien.
Clémentine?
Oui, Stéphane nous a raconté ce fameux match de 1950 qui lui coûte sa carrière contre Henri Cogan. Et vous racontez, monsieur, dans votre livre que tout de suite après, il a l'idée de devenir organisateur de combat. Oui. Le sport était vraiment toute sa vie. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas eu ce hasard du cinéma, c'est quelqu'un qui aurait passé toute sa vie dans le sport, blessé ou pas?
Certainement, parce que effectivement, le cinéma, ça ne lui venait pas du tout à l'idée. Surtout qu'à l'époque, c'est devenu un peu plus courant par la suite, mais on ne prenait pas comme ça des gens qui n'avaient aucune expérience de l'interprétation, on faisait pas ça, donc lui n'y pensait pas du tout. Et effectivement, quand il arrête sa carrière de catcheur, qu'il aurait arrêté à un moment donné à cause de l'âge forcément, effectivement, le premier réflexe qu'il a, c'est de rester dans le milieu du sport qu'il a toujours adoré. Et comme il connaît très bien ce milieu des lutteurs, il va organiser des combats, il va représenter les lutteurs un peu partout, il organise des combats en France et en Europe.
Même s'il devient acteur par hasard, Lino Ventura est un grand passionné de cinéma depuis sa jeunesse. Il le dit d'ailleurs au journaliste Pierre Lavigne, qui l'interroge en 1966 pour Europe 1. Écoutez cet extrait.
Vous allez au cinéma quelquefois?
Je vais beaucoup au cinéma. Je suis allé depuis que je suis gosse énormément et j'y vais beaucoup. Je suis un spectateur de cinéma, assez fanat d'ailleurs de cinéma.
Si on ne lui avait pas proposé un rôle, il n'aurait pas imaginé faire du cinéma son métier?
Non, parce que effectivement, depuis toujours, il a été au cinéma. Il adorait les grands acteurs américains. Il adorait Gabin aussi. Mais ça, comme je disais, à l'époque, on n'imaginait pas que parce qu'un sportif pourrait devenir comédien. Donc, il adorait ça. Il allait voir. Il a vu 25 fois Quand la ville dort de John Huston. Il aimait ces choses-là, mais ça lui serait jamais venu à l'esprit, quoi.
Lino Ventura devient acteur grâce à Jacques Becker. On l'a raconté, qui lui propose de jouer dans Touche pas au Grisby.
Max, on va t'expliquer de quoi il s'agit. Il nous fallait l'avis d'un homme de poids pour un petit arbitrage entre nous.
Voilà.
Vas-y, à toi de rouler.
Comment se passe la rencontre entre les deux hommes? Lino Ventura était réfractaire à jouer dans le film ou simplement inquiet de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait ou de se confronter à un géant?
Il y avait un peu les deux, c'est-à-dire que il y avait pas du tout imaginé faire du cinéma. On l'a un peu forcé, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui le connaissait un peu d'avant la guerre, qui lui dit tiens, ça serait bien qu'on essaye ce gars-là. L'assistant de Jack Baker est venu chez Ventura pour lui faire lire un texte. Bon, il a accepté. L'assistant se dit qu'il a un bon naturel, mais il lui fait redire le texte en allumant une cigarette, parce qu'il dit on sait jamais, il y a peut-être perdu ses moyens, etc. Et en fait, il le fait encore mieux. L'assistant appelle Baker en disant là, il faut prendre absolument ce gars-là. Et donc, on lui fait faire un essai. C'est un peu réfractaire encore, et finalement, voilà, il fait finalement l'essai. Il s'appelait à tout le monde. Gabin accepte. Il dit ça, c'est formidable. Il croit même pas que ce gars-là n'a pas d'expérience cinématographique. Il se dit, mais c'est fou, quoi, ce qu'il dégage à l'écran. Et donc, il y a cette histoire de cachet. Il va dire, moi, je vais demander un cachet énorme. Comme ça, ils seront obligés de refuser. Et puis finalement, le producteur se dit, on va pas passer à côté de cette opportunité. Et donc, il lui donne son cachet.
Ouais. Mais est-ce qu'il a, une fois dans sa vie, pris un peu des cours de diction, des cours de théâtre ou jamais?
Jamais, en fait. Ah oui. Jamais, parce que d'abord, ce qu'on lui a demandé d'être sur le Grisby, c'est d'être un peu lui-même. Bon, évidemment, c'était pas un gangster, c'était quelqu'un de très gentil, mais on lui demandait d'être, de parler comme il parlait dans la vie. Donc ça, il a pu le faire. Donc après, Gabin l'a redemandé sur d'autres films, il a continué à faire des films, et en fait, il a appris finalement son métier sur les plateaux, quoi.
On associe toujours Ventura à son physique, à la forte personnalité qu'on imagine aller avec, mais finalement, comment il était sur les tournages? Il était plus docile que sur un ring?
A priori, de ce que les gens racontent qui ont pu tourner avec lui, il n'était pas forcément très docile. Il était très exigeant, mais déjà exigeant avec lui-même, donc exigeant avec les autres. Il fallait beaucoup discuter sur le scénario, les dialogues, avant le tournage. Audiard disait une fois à Lautner, écoute, faut qu'on tourne, il faut qu'on lance le film parce que sinon il va nous emmerder encore des mois, donc on y va, quoi. Et en fait, une fois qu'il était sur le plateau, ça allait mieux déjà, mais on pouvait pas lui faire faire n'importe quoi. Il fallait vraiment toujours lui expliquer le pourquoi du comment.
Vous expliquez d'ailleurs dans votre livre que Lino Ventura ne se sentait pas à l'aise dans le registre comique de certains de ses rôles. Pourtant, quand on pense, nous, à Lino Ventura, on pense d'abord à des films drôles, des répliques avec des scènes d'anthologie comme celle qu'on a entendue tout à l'heure, les Tontons Flingueurs. Il avait du recul pour s'amuser de ça ou il préférait ses films les plus noirs?
C'est-à-dire que quand on lui a proposé les Tontons, la première réaction c'était de dire « mais je ferai rire personne ». Et c'est un truc qui revenait souvent quand il a fait d'autres films avec Lautner ou L'Emmerdeur. Parce que lui, il s'imaginait pas comme acteur comique. Mais en réalité, ce qu'on lui demandait, c'était pas de jouer drôle, c'était pas de jouer comique. Contrairement à Blier ou à Francis Blanche, lui, au contraire, ce qui était intéressant dans les comédies, c'est qu'il jouait premier degré. Il jouait le dur, et en fait, c'était la réaction des autres, que ce soit Jean Lefebvre ou Jacques Brel, etc., qui rendait la chose drôle.
C'est ça qui fera, vous avez raison, c'est l'impression de naturel qu'il dégage. On n'a jamais l'impression que c'est quelqu'un qui est dans un rôle de composition. On a l'impression qu'il fait ce qu'il sait faire, ce qu'il a envie de faire.
Exactement.
Et que c'est quand même une tête de bourrique, parce que Stéphane l'a rappelé, il a déserté au moment de la Seconde Guerre mondiale en 1943 pour retrouver sa femme. C'est quelqu'un à qui on va rien imposer.
Non, c'est ça. Il faisait ce qu'il voulait faire, il ne faisait pas ce qu'il ne voulait pas faire, que ce soit dans la vie ou que ce soit au cinéma, quoi. Quand on lui proposait des décorations, il refusait absolument. Il disait, non, moi, je veux pas être décoré.
Mais en prenant des risques aussi, parce que quand il l'a déserté, là, justement, quand il était
chez lui,
il aurait pu être dénoncé à
bien
tout
sûr,
moment.
Donc il s'est caché, aussi courageux. Il s'est caché à Paris sous l'occupation, il était aidé par ses amis lutteurs. Mais il a continué à s'entraîner dans une salle qui était juste rue Réaumur, juste au-dessus des locaux du Pariser Zeitung, qui était un journal de propagande nazie. Donc c'était pas forcément le meilleur endroit pour aller faire de la lutte, mais en fait il a quand même continué, il se cachait, il avait fait preuve de courage quand même.
Pour finir, vous évoquez un autre combat majeur dans la vie de Lino Ventura, plus personnel, celui-ci à travers son association Personnage qui aide les enfants atteints de déficience mentale, puisqu'il était lui-même père d'une fille trisomique. Sous les muscles, plus on apprend à connaître Lino Ventura, plus on le découvre, il se cachait un cœur tendre.
Oui, parce que en fait sa fille, ça a été à la fois le drame de sa vie et le combat de sa vie, c'est-à-dire que dans les années 60, on soignait pas en fait les enfants handicapés mentaux quand ils à 18 ans, ils avaient plus droit à la sécu, plus rien. Donc ils savaient que d'autres parents étaient un peu démunis dans cette situation-là, donc il a créé l'association Personnage. Pendant des années, entre chaque film, il s'occupait de ça, de créer des centres, etc. Puis souvent, il y avait des gens qui étaient réfractaires à tout ça, donc il se battait d'autant plus pour ça. C'était vraiment le combat de sa vie.
Mais merci beaucoup, Philippe Lombard, d'être
merci
venu avec nous sur cet acteur culte du cinéma français, mais qui est monté sur le ring. Je rappelle l'ouvrage que vous lui consacrez, Lino Ventura, le livre Coup de poing, qui paraît le 13 octobre prochain aux éditions Hugo.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre tout à l'heure.
Hein. Oui, vous allez être content, il y a une question sur Lady Di aujourd'hui.
Ah oui ?
Mais elle sera pas pour vous.
Ah bah, dommage. Et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui nous plonge dans l'intimité de l'histoire. Enfin, je sais pas ce qui est très intime.
Non,
là, mais...
écoutez, ça rejoint plutôt la vie quotidienne et l'alimentation, dirons-nous. Alors, ça se passe à Olympia Spring, dans le Kentucky. Et ce jour-là, il fait un temps absolument radieux. Et devant sa maison, Madame Crush est en train de fabriquer du savon. Parce que nous sommes en 1876, à l'époque, on fait son savon maison. Et soudain, elle entend des petits bruits, un peu comme si une pluie de cailloux ou de la grêle frappait le sol. Alors qu'il fait très beau, elle lève les yeux au ciel. Et que voit-elle ? Une multitude de morceaux de viande tombant du ciel. Mais quel est ce prodige ? Nous sommes le 3 mars 1876, donc l'avion n'ayant pas encore été inventé, ça ne peut pas être le relief d'un plateau repas servi en classe éco. Et non, un message de Dieu peut-être. En tout cas, Madame Croche est éberluée. Elle regarde de plus près, mais c'est étrange, on dirait des morceaux de bœuf. Ils sont tombés en masse comme de gros flocons de neige. Alors elle en conserve le maximum. Hein. En tout, il serait tombé à peu près de quoi remplir une brouette. Et aussitôt, bien sûr, elle va alerter le journal local.
C'est cru ou cuit ?
Alors, c'est vous allez comprendre.
Vous préférez comment, Stéphane ?
En ville. En ville, on rit sous cap, bien sûr, tout le monde cancane, mais cette madame croche, elle dirait n'importe quoi pour faire la maline. Bon, pensez donc, elle affirme que parmi les morceaux de viande tombés du ciel, l'un d'eux mesurait quand même 10 cm sur 10 cm. Ça fait un bon petit steak haché quand même, ça c'est spectaculaire. Mais enfin, une pluie de viande par un temps radieux, avouez que c'est difficile à avaler. Aussitôt, informés de l'étrange phénomène, les gens accourent en masse à la ferme de Madame Croche dans les jours qui suivent pour voir par eux-mêmes les mystérieux flocons de viande. À ce stade, et quoique la viande soit plutôt gâtée, plutôt avariée déjà, hein, deux courageux, Olivier aurait certainement fait ça, il goûte la viande, parce qu'il voudrait savoir de quelle viande il peut bien s'agir. Verdict, ça ressemble à de l'agneau ou à du cerf. On expédie les échantillons à des scientifiques des environs, parmi eux un histologiste distingué, le docteur Med Edwards. Je rappelle que l'histologiste est un spécialiste des tissus biologiques. Après analyse approfondie du spécimen, il estime qu'il ne s'agit ni de bœuf, ni d'agneau, ni même de cerf, mais plutôt de tissu pulmonaire d'un nourrisson humain ou de tissu pulmonaire de cheval.
Quelle horreur.
Faut croire que ça se ressemble, hein. D'autres scientifiques décrètent qu'il s'agit de différents morceaux d'un unique propriétaire, tissu pulmonaire, tissu musculaire et cartilage. On tente une explication. Bien sûr, la plus logique pour Madame Croche, c'est la manifestation divine, naturellement. Après tout, les Hébreux n'ont-ils pas reçu la manne divine dans le désert? Mais qu'a voulu nous signifier Dieu en nous envoyant de la viande?
Surtout avariée.
Ah, elle n'était pas avariée quand elle est tombée. Ah, elle est avariée après, quand les gens sont venus la goûter. Autre hypothèse, ça n'est pas de la viande, mais du nostoc. Qu'est-ce que c'est que le nostoc? C'est une substance gélatineuse, une sorte d'algue qui gonfle quand il pleut. Le nostoc semble généralement venir de nulle part, ce qui expliquerait qu'il soit comme tombé du ciel par un coup de vent. Bon, enfin, malheureusement, il pleuvait pas ce jour-là, donc le nostoc, ça tient pas la route non plus. La théorie la plus plausible, est-ce que vous avez une petite idée ou pas de quoi il peut s'agir? Eh bien, c'est la théorie émise par le docteur Kastenbein, conseillé par un fermier du coin qui s'y connaissait. C'est que ces morceaux de viande, selon lui, étaient, je cite, « des éjectats gastriques de vautours », en plus simple, du vomi de vautours. Les vautours, ce jour-là, ont régurgité leur nourriture partiellement digérée, laquelle a été comme soufflée en pluie sur la zone. Les vautours du Kentucky sont, paraît-il, connus pour vomir, pour s'alléger, ou quand il y a un danger, s'ils étaient en plein processus de digestion, ils vomissent pour s'alléger, ils peuvent partir plus vite. À l'appui de cette hypothèse, les morceaux de viande étaient en effet déchirés et non coupés. Donc, Stéphane, je vous vois extrêmement impatient de vous faire votre propre idée. Vous pouvez aller voir des morceaux de cette viande pourrie de 1876 qui ont été conservés dans des pots à Olympia Spring. Hein ? Alors, avouez que quand même, ma pluie de viande, ça valait bien la météorite en forme d'ananas et le bloc de crotte congelée, hein, Stéphane, Jean-Luc. Soyez fair play.
On est fair play, mais il faut quand même avoir très peu de chance pour que d'un seul coup, tous les vautours décident de venir vomir au-dessus de chez toi.
Exactement.
T'as quand même un mauvais karma.
Bah, les vautours volent en escadrille.
Ah oui, mais quand même.
Bah, merci beaucoup, Clémentine.
Ah oui, ça vous pouvez m'en remercier.
Passionnante histoire, oui, oui. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. Bah oui, c'est Jean-Luc Lemoine qui prend la main. C'est pour le quiz soi-disant historique. Bon, c'est parti, vous aimez jouer, jouons.
Je suis porté par votre enthousiasme. Merci beaucoup, oui, Stéphane. On va commencer avec vous, justement. Alors. On va commencer ce quiz en toute simplicité avec Herbert von Karajan.
J'ai connu.
Dans sa version du Requiem de Mozart.
Oui. Oui. Vous l'avez vraiment connu?
Oui, je l'ai connu. J'ai connu surtout après beaucoup Aliette, sa femme.
Alors, le prestigieux chef d'orchestre autrichien a eu quelques sympathies douteuses.
Oui, avec les nazis.
Exactement.
Oui. Comme Kurt Waldheim aussi.
Oh, il était jeune.
Oui, Kurt Waldheim aussi. Mais enfin, il était quand même en haut du Mirador.
Et donc, Herbert von Karajan a tenté trois fois d'adhérer au parti nazi. Trois fois, on lui a refusé. Heureusement pour lui. Enfin, heureusement, la quatrième fut la bonne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux tout ça?
Pour adhérer au parti nazi,
ouais,
c'est étrange, non?
C'est étrange. Non, s'il avait voulu adhérer au parti nazi, il aurait adhéré au parti nazi tout de suite.
À moins que ça ait été sur le tard, c'est-à-dire que dans les débuts, c'était ouvert à tous. Peut-être que
c'est devenu un club
l'adhésion
select.
Par L'adhésion, peut-être au début des années 40, était plus difficile que dans les années 30.
Je trouve que l'avant.
Mais pourquoi l'aurait-on refusé trois fois ?
Kurt Wengler est plus honnête et plus glorieux que ça. Non, je dirais non, j'y crois pas à cette histoire.
Vous dites faux ?
C'est faux.
Vous avez gagné.
Mais c'est exactement pour la raison inverse que vous venez d'évoquer, Clémentine. On lui a refusé qu'une seule fois en 1933. Les adhésions sont limitées dans le parti nazi, mais Herbert adhère finalement en mars 1935. Par la suite, il minimisera cette adhésion en soulignant que c'était plus par opportunisme professionnel que par soutien idéologique. Et on notera quand même que, vous, si vous l'avez connu, le maestro n'a jamais clairement exprimé de regrets durant toute sa vie.
Mmh, absolument.
Une question pour Clémentine maintenant. Delphine de Girardin fut une romancière, journaliste et poétesse du 19e siècle. Avec Georges Sand, elles s'écrivent régulièrement. Le 26 décembre 1854, on comprend à demi-mot dans un courrier qu'un objet est offert. Un objet qui s'utilise seul, pendant un moment intime. Si vous voyez ce que je veux dire.
Écoutez, alors là...
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Est-ce que c'est vrai que Delphine de Girardin aurait offert un Gonne-Michet ou un Olisbos à Georges Sand ? En quelle année, dites-vous ?
En 1854.
Quel âge peut avoir Georges Sand en 1854 ? Elle n'est pas vieille, elle est encore tout à fait d'ailleurs, oui, pourquoi pas ?
J'essaie
de me figurer la chose. En plus, si elle est avec Chopin, ça ne devait pas non plus être les folles soirées. Est-ce qu'une amie à l'époque a pu offrir oui. Écoutez, ce sont deux femmes libres, assez émancipées, assez féministes, assez sensuelles. Ça pouvait être un canular entre elles. Madame Girardin lui aurait offert un Olisbos antique.
Donc vous y croyez ?
Oui, ça me plairait cette histoire, je réponds oui.
On vérifie.
Vous avez perdu.
Eh non,
c'est dommage, c'est bien dommage, non mais dites donc Claude.
C'est un autre cadeau qui est envoyé. Georges écrit, chère madame, j'envoie votre valet de chambre 6 fromages, des fromages qui sentent aussi mauvais que vous sentez bon. Et en même temps, en vous disant ça, je me dis qu'on peut faire beaucoup de choses avec un fromage. Donc, j'accepte votre réponse.
Oui, c'est vrai, parce que...
On peut se faire plaisir avec un fromage.
De quel fromage s'agissait-il ?
Exactement.
Donc, pour l'instant, il y a un partout.
Ah bon ? Pourquoi vous lui donnez le point ?
Mais parce que vous pouvez vous faire plaisir avec un fromage.
Non, mais
attendez, je vais poser une question à Clémentine, et de sa réponse dépendra le point, d'accord ? Clémentine, avez-vous déjà envisagé un fromage comme un sextoy ?
Eh ben écoutez, non, je regrette. Là, je mérite peut-être pas mon point parce que ça m'est pas, ça m'est pas venu à l'idée.
Bon,
pas
elle a perdu son point. Dommage. Ah,
désolé.
Là, je lui ai tendu une perche, mais non, elle a pas pu la saisir.
Et vous-même, avez-vous pensé à un fromage comme sextoy ?
Exactement, du chausset aux moines. Vous n'avez pas le sens de la fête, et c'est bien dommage.
Chausset aux moines, c'est là où on rappe. Non, c'est tête de moine.
Non, c'est
tête
de
moine. Ah oui. C'est tête de moine, ouais.
Ah oui.
Là, on rappe, ça fait peur. Ça fait peur.
Arrêtez, parce que quand vous dites tête de moine en me regardant, ça fait bizarre.
Oui.
Stéphane, pour vous une question. Durant quel siècle est né le mot méritocratie ? Avant Jésus-Christ, au 16e siècle ou au 20e siècle ?
Avant Jésus-Christ.
Moi, je dirais au 20e siècle, mais ça n'est pas ma question.
Ce n'est pas votre question.
Moi, je pense avant Jésus-Christ, on disait, lui, il a réussi, c'est la méritocratie.
T'as vu cet apôtre, là, il a vachement bien réussi.
Et c'était un Romain qui s'appelait méritocrate.
Ouais, exactement.
On écoute la réponse.
Vous avez perdu.
Je suis désolé, Stéphane.
Dites, chef, je pourrais peut-être avoir son point, du coup. Hein.
Non,
au moins 50%.
Non, c'est le 16e.
Non, c'était au 20e. Elle avait raison, Clémentine.
C'est tellement évident.
Tellement évident que c'est ce qu'il fallait répondre, cher ami.
C'est dans un livre publié méchante, en 1958 et c'est écrit par Michael Young.
Ne pas confondre avec Michael Young. Vous êtes très impitoyable sur le fromage en sextoys. Je vois pas pourquoi je serais indulgent.
Ok, j'ai perdu.
Et ce livre s'appelle The Rise of the Meritocracy, un ouvrage qui dénonce le système d'éducation anglais où les individus situés au bas de la pyramide sociale sont incapables de se protéger contre les élites. Dans ce livre, une révolte des masses est prévue en 2033.
Waouh.
On verra s'il avait raison. Donc pour l'instant, nous sommes à 1-0. Clémentine peut égaliser avec cette question. 29 juillet 1981, qu'est-ce qui se passe ?
29 juillet 1981, c'est l'élection de Mitterrand. Une des premières mesures, c'est quoi ? Ce sont peut-être les...
Est-ce que sont... Bon, alors je vais vous aider, c'est le mariage de Lady Di et du prince Charles.
Vous l'avez dit, la question.
Plus, oui, je vous avais dit que je vais préparer une question spéciale Lady Di.
C'est si vieux que ça.
Eh oui. Le 9 mars, juste avant de convoler, elle rencontrait Grace Kelly. Très impressionnée, mal à l'aise, elle a confié être terrifiée, ne sachant pas si elle devait porter son sac à main, à droite ou à gauche. Grace Kelly lui aurait dit « Ne t'inquiète pas, ça va devenir bien pire ». Vrai ou faux ?
Ah ben en même temps, Grace Kelly avait déjà l'expérience d'une princesse obligée de subir un certain nombre de règles, de bienséance et de bien se tenir en public. Et elle lui aurait peut-être plutôt dit « Tu t'en verras d'autres que tes problèmes de sac à main hein. ». Et ça a été le cas. Oui, je dis oui.
Vous dites oui ?
Oui.
On écoute la réponse.
Vous avez... gagné !
Vous avez gagné. En tout cas, c'est ce qu'écrit Andrew Morton dans son livre « William and Catherine » paru en 2011. Et les mots de Grace étaient censés amener un peu d'humour. Quand on sait ce qui est arrivé à l'une et à l'autre, c'est assez glaçant. Vous êtes à égalité, mes amis.
Et donc, il se passe quoi ?
Il y a une question pour vous départager. Oh, non. Une question pop. Ça vous va ? Chanson française. Vous y connaissez en chanson française.
Oui. Très bien, oui.
Soit une question de rapidité entre vous deux. L'année dernière, Jean-Jacques Goldman a eu 70 ans. On va se souvenir d'un titre que nous avons tous chanté sous la douche il y a 40 ans déjà.
Quand la musique est bonne, quand la musique est bonne.
Ça vous parle, quand la musique est bonne ?
Bien sûr.
Dans cet album où l'on trouve quand la musique est bonne, quel autre titre commençant pareil peut-on également écouter ? Quatre propositions. Quand la bouteille est vide, quand les poules auront des dents, quand t'as bien les boules, quand Stéphane a eu une bonne réponse.
Quand les poules auront des dents.
Quand les poules auront des dents pour Stéphane.
Et sinon, refaites-le.
Quand la bouteille est vide, quand t'as bien les boules.
Quand la bouteille est vide.
Alors, c'était le même début, mais c'est pas spécialement la même musique.
Ah bon ? Ah d'accord, c'était pas la même musique.
Et sinon, il y a quand t'as bien les boules ou quand Stéphane a eu une bonne réponse.
Moi, j'aime bien quand t'as bien les boules.
Quand t'as bien les boules. Eh bien, écoutez, on va vivre quelque chose qu'on a rarement vécu dans ce jeu. Personne ne gagne aujourd'hui.
C'est la première. Quand la bouteille est vide.
Qu'est-ce qui restait ?
Eh ouais, c'était quand la bouteille est vide, on écoute.
C'est ce que j'ai dit en premier, en plus.
La bouteille est vide. Je craque une allumette.
C'est pas sa plus dynamique.
Non.
Et la bouteille vide se remplit.
Eh bien, c'est un magnifique match nul. Je suis content. Personne ne sera déçu aujourd'hui.
Non, c'est super. Bah, merci beaucoup. Et puis à demain, Clémentine.
On verra. Hein. On verra ça.
Ah, vous êtes vexée.
Sachez, Monsieur Molière, que je vous parle sous le sceau du secret le plus absolu.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Je montrerai ma tête au peuple. Alors, vaut la peine.
C'est une émission qui s'appelle Hit Parade, la parade des succès.
Stéphane Bern.
Et je ne suis évidemment pas seul, ils sont trois, ils sont avec moi. Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et notre guide culinaire vivant et bon vivant même qui est avec nous aujourd'hui, Olivier Pouls. Et ceux qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui ont un point commun, et c'est bien pour cela qu'on les réunit cet après-midi, nos trois personnages du jour qui sont montés sur le ring. Après le catcheur devenu acteur Lino Ventura, je vous raconte Jack London, l'écrivain qui a mis de la boxe dans la vie et dans ses livres aussi. Quant à vous Jean-Luc, vous allez nous raconter à votre manière comme chaque jour le vivant de l'étape qui est monté sur le ring lui aussi.
Oui, le boxeur du Havre qui a retrouvé la paix après quelques mois, qui n'était pas de tout repos au gouvernement. Je vous raconte l'ex-premier ministre Édouard Philippe en short satiné et ganté de cuir.
Ça sera juste avant 17h30. Et dans la dernière partie de l'émission, vous retrouverez, chers auditeurs, deux garçons moins satinés, mais tout aussi brillants. Olivier Pouls, dans Mes aïeux qu'à l'époque, vous nous ramenez aujourd'hui au 19e siècle, marqué par l'arrivée d'une chose dont on ne va plus pouvoir se passer, la patate.
En tout cas, moi, je ne peux pas m'en passer. Je ne sais pas vous, mais j'adore ça. Et c'est vrai que...
Bah, vous êtes belge, vous aimez les frites.
Évidemment que j'aime les frites. On parle que les frites. Le 19e siècle, c'est le moment où véritablement la pomme de terre arrive partout en France.
Moi, ce que je préfère, c'est la pomme sarladaise.
Ah, ben c'est léger. Oh,
c'est très léger, ça.
Ouais. Oui, mais c'est bon.
Ah ben oui, évidemment, oui, c'est bon. Il y a du gras. C'est bon.
Et David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un objet qui marche à l'électricité.
Eh oui, oui. Exactement, et qui permet de tuer les gens.
Ah oui.
Ça s'appelle la chaise électrique. Oui. Et toujours, on s'en sert toujours.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis seulement même.
La facture a dû monter.
Oui, c'est ça. C'est très cher de tuer les gens aujourd'hui.
Rendez-vous donc en fin d'émission, et pour l'heure, je vous raconte notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
S'il a eu l'appel de la forêt, il a eu celui du ring aussi. Dans ses écrits, il a décrit le monde tel qu'il le voyait, tel qu'il l'imaginait sans prendre de gants. Mais pour boxer, il en a mis, c'est plus prudent. Je vous raconte maintenant un aventurier qui est monté sur le ring, Jack London. Nous sommes en 1886 à San Francisco, aux États-Unis. Jack London, qui s'appelle encore John Chaney, a 10 ans. Mais il a déjà compris que lorsqu'on est pauvre, la vie est un combat, parfois au sens propre. Alors il lui arrive de faire le coup de poing le long des docks, comme sa mère le confessera plus tard. Le petit John est batailleur, oui, bagarreur même, mais par la force des choses. Il est le genre de gamin à ne pas céder d'un pouce, face à des plus grands que lui, souvent surpris par ce petit teigneux qui se relève toujours. Jack London est peut-être prédestiné, mais la boxe, la vraie, il ne la découvre que bien après, à 20 ans. Du jour de sa naissance, ou presque, Jack a dû en effet batailler. D'abord en échappant à la diphtérie qui ravage la ville de l'ouest des États-Unis où il est né, ou en luttant contre la misère bien installée. L'enfance de Jack London, c'est celle d'un gamin qui doit ramasser les quilles dans les boulings, laver des vitres ou réparer les filets des marins-pêcheurs pour se faire 3 sous. Mais ce quotidien, Jack a tout fait pour s'en éloigner. Au milieu des années 1890, juste majeur, Jack London a déjà pas mal baroudé aux États-Unis et il commence à écrire ses premières nouvelles qui relatent ses aventures. Mais la politique l'attire autant que la littérature. Marqué par le sort des ouvriers et des vagabonds qu'il a croisés à travers le pays, London rejoint les rangs du Labour Socialist Party d'Oakland, à côté de San Francisco. C'est là qu'il donne ses premiers coups, mais cette fois, en y étant autorisé. Il s'initie au noble art, qui n'en est pas encore un, avec un camarade, un maître en la matière, Jim Whittaker, ancien instructeur de boxe dans l'armée britannique. Les premières semaines, le style de Jack London est encore grossier, mais l'entraînement paye. En quelques mois, Jack London devient un boxeur, certes amateur, mais redouté pour l'acharnement et l'obstination qui le caractérisent entre les cordes d'un ring. Dans les années qui suivent, Jack London finit par associer l'utile à l'agréable. Quitte à passer ses soirées dans les salles de boxe, il accepte de couvrir les combats prestigieux pour les journaux d'un des grands manias de la presse de l'époque, William Randolph Hearst, l'homme qui a inspiré le célèbre Citizen Kane. Hearst, qui rachète des journaux un peu partout à travers le pays, a besoin du talent des grandes plumes américaines. Et Jack London fait déjà partie de celle-là, alors que la publication de son ouvrage, aujourd'hui le plus célèbre, L'Appel de la Forêt, l'a propulsé sur le devant de la scène en 1903. Non seulement Jack London a le vent en poupe, mais il sait d'autant mieux de quoi il parle qu'il boxe lui-même et qu'il fréquente des stars du ring comme Jimmy Britt ou Bob Fitzsimmons. Rien ne peut alors égaler son écriture lorsqu'il s'agit de décrire au lecteur l'affrontement des boxeurs et leur danse cruelle, la chaleur des projecteurs, l'odeur du sang et de la sueur, le son mat et sourd des gants qui frappent des côtes ou un visage. Sous sa plume, une rencontre de boxe devient un récit tragique, celui d'une violence brutale mais calculée et codifiée sous les rugissements de la foule. La boxe, pour Jack London, c'est de la pure violence sublimée par la grâce de quelques cordes et d'un carré lumineux. Chaque coup de gong raconte la domination du plus fort sur le plus faible, un thème qui traverse toute son œuvre d'ailleurs. Car c'est bien de domination que l'on parle et non de sport ou à peine. Jack London le souligne souvent. On joue au football ou au basket, mais on ne joue pas à la boxe. On la pratique dans un combat cruel où l'individu s'engage tout entier au risque d'y laisser quelques plumes et parfois même la vie. C'est ce qui est arrivé à Joe Fleming, le héros du destin tragique de The Game, L'Enjeu en français, le premier des deux romans publiés en 1905 que Jack London a consacré à la boxe. Alors qu'il a juré à Geneviève, sa fiancée, d'arrêter les combats clandestins qui lui permettent de gagner quelques sous pour aider sa famille, Joe, 30 ans, finit par accepter un dernier combat la veille de son mariage. Un combat au cours duquel il meurt sous les yeux de Geneviève. Le bruit court d'ailleurs que c'est en lisant ce roman tragique que le boxeur Gene Tenney, le vainqueur de Georges Carpentier, décida de mettre brutalement fin à sa carrière, au moment où chacun voyait en lui le poids lourd le plus doué de sa génération. Mais l'influence de Jack London dans le monde de la boxe ne s'arrête pas là. Dans son second roman de boxe, The Abyssal Brute, la brute des cavernes, London imagine la lente ascension sportive et sociale de Pat Glendon, un jeune boxeur entraîné par un ancien champion. Avec lui, Jack London peut se vanter d'avoir créé un archétype, celui de l'ancien boxeur reconverti qui forme un héritier sorti du ruisseau, en général à contre-cœur. La culture populaire regorge de ce type de personnages élevés au rang de clichés. Comme par exemple dans le film Creed sorti en 2015, où Sylvester Stallone retrouve son personnage mythique de Rocky. Un Rocky vieillissant qui entraîne le fils de son ami Apollo Creed, mort sur le ring. Dans l'imaginaire de Jack London, la boxe est donc une affaire de domination. Mais elle prend un drôle de tour, avec une affaire célèbre qui reflète tous les préjugés raciaux de l'époque. En 1910, Jack London est au sommet de sa gloire quand il pèse de tout son poids pour que soit organisé le combat du siècle. Un match opposant Jim Jeffries et Jack Johnson, deux boxeurs invaincus qui ne se sont jamais rencontrés. Au-delà de l'enjeu sportif, l'affaire symbolise aussi l'Amérique ségrégationniste de l'époque. Jim Jeffries est blanc, Jack Johnson est noir. Et pire encore, aux yeux de certains, c'est un provocateur né qui joue de la haine que lui voue une partie du public blanc en étalant sa fortune et ses conquêtes, en portant des fourrures aux couleurs vives ou en exhibant ses incisives en or. Pour une partie de l'Amérique blanche, la simple idée que Jack Johnson puisse être le champion du monde poids lourd en titre est intolérable. Ce qui se joue le 4 juillet 1910 dans le Nevada n'est pas un match de boxe. Pour bien des spectateurs, c'est la domination de la race blanche sur la race noire. Si Jack London ne va certainement pas jusqu'à hurler « Tue le nègre !» comme on l'entend honteusement ce jour-là dans les tribunes, son soutien va clairement à Jeffries qu'il appelle à effacer le sourire de Jack Johnson. La défaite de Jeffries lui semble impossible, au point qu'il mise 4 000 $ sur le champion ce jour-là. Et pourtant, le 4 juillet, devant 20 000 spectateurs enragés, Jack Johnson pilonne Jeffries pendant 15 longs rounds avant de le laisser au sol et de se moquer des célébrités sagement installées au premier rang qui n'étaient pas venues pour l'encourager. Parmi elles, Jack London aura au moins le mérite de reconnaître que Johnson n'a pas volé sa victoire. En 1910, son dernier combat à lui n'est pas loin. 6 ans après le match du siècle, affaibli par l'alcool et par la maladie tropicale qu'il a contractée lors d'un voyage dans le Pacifique, Jack London, l'aventurier, n'est plus que l'ombre de lui-même. Réfugié dans son ranch de Glen Ellen, en Californie, il meurt à 40 ans à peine d'un empoisonnement du sang, le 22 novembre 1916, au terme d'une existence qu'il aura menée comme il l'entendait, comme il l'avait encore écrit quelques jours avant sa mort, dans l'un de ses derniers articles « Je préférais être un météore superbe qu'une planète endormie ». La vie pour Jack London était une fulgurance et un combat, et la boxe en était l'image.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jack London, nous avons le plaisir d'accueillir une auteure qui, grâce à lui et grâce à elle aussi, a obtenu le prix Goncourt de la biographie. Bonjour Jennifer Le Sieur.
Bonjour Stéphane.
Jennifer, vous êtes l'auteure de la première biographie de Jack London en français. On connaît bien entendu le Jack London baroudeur et voyageur, mais on connaît moins cette facette de lui autour de la boxe. Pourtant, on vient de l'entendre. Elle semble très importante, cette facette-là.
Oui, oui, oui. Il faut rappeler que London n'a pas fait que chercher de l'or dans le Grand Nord, naviguer dans les mers du Sud. Il avait beaucoup de loisirs, dont la boxe. Et comme beaucoup d'écrivains, il a eu envie d'écrire sur sa passion, parce qu'il a très vite senti tout le potentiel que ce thème avait, à la fois pour nourrir des intrigues percutantes, mais aussi pour donner d'autres niveaux de lecture, faire passer des messages à travers ses histoires de boxe.
Et vous racontez dans votre biographie que Jack London se prend de passion pour les règles et techniques de l'art pugilistique. Qu'est-ce qu'il aime concrètement dans la boxe ?
Comme il a grandi dans un milieu très pauvre, je pense qu'il a dû aimer le fait que ce soit un sport qui n'exige aucun matériel, pas de frais d'inscription, que ce soit pas du tout élitiste. La boxe, vous l'avez dit, il l'a déjà d'abord pratiqué avec ses poings, dans la rue. Après, avec l'âge, il a appris qu'on pouvait frapper selon des règles, avec du style aussi. Et ça, qu'on puisse donner un cadre, un règlement à quelque chose d'aussi instinctif que de donner des coups de poing, je pense que ça s'accordait assez bien avec sa vision de la vie.
La boxe n'est pas considérée à l'époque comme un art noble. Vous dites qu'elle est mise au même niveau que l'alcool, les jeux d'argent et les maisons closes. Jack London était donc aussi animé par l'adrénaline, la violence, le côté sulfureux de ce sport ?
Oui, sûrement, oui, oui. London n'a jamais prétendu être un intellectuel. C'était plus un homme d'action. Il a été témoin de beaucoup de scènes de violence dès son enfance. Et pour lui, de toute façon, aucun sujet n'était trop dur, trop répugnant. Ce qui était sulfureux, justement, avait plutôt tendance à l'attirer. Pas pour la noirceur en soi, mais pour le réalisme brut, la vérité crue qui l'accompagne.
Vous expliquez également que Jack London, je vous cite, traite d'hypocrites ceux que la boxe rebute, car ce sont les mêmes qui ferment les yeux sur les mauvais traitements infligés aux enfants et aux ouvriers dans les usines. La boxe est donc le symbole de la lutte des classes pour l'écrivain engagé qu'il est.
Oui, oui, complètement. D'ailleurs, il s'agit que de ça. Le combat de boxe, pour lui, c'est le combat des classes. C'est le destin de la classe ouvrière, dont il est issu, qu'il a toujours défendu, dans ses livres comme dans sa vie. Ces personnages de boxeurs sont toujours, de toute façon, des hommes plongés dans la misère, qui se tuent à la tâche, dans tous les sens du terme, pour joindre les deux bouts. Et à la fin, c'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais c'est celui qui aura mangé à sa faim, qui aura eu le temps de se reposer.
Dans le récit, j'ai rappelé le fait que Jack London devient reporter pour des matchs de boxe. Pourtant, à l'époque, c'est déjà un écrivain à succès. Alors, qu'est-ce qui l'attire dans cette nouvelle carrière à ce moment précis de sa vie?
Les sous, les dollars. Oui. Les dollars. Il devient chroniqueur sportif parce que c'est un moment de sa vie où il est malade et ruiné. Il est échoué dans un hôpital en Australie après une tentative de tour du monde en voilier qui a complètement tourné court. Et quand le mania de la presse Hearst lui a proposé de signer des chroniques sur la boxe dans le New York Herald, très bien payé en plus, c'était pour lui l'occasion rêvée de joindre l'utile agréable et de remettre le pied à l'étrier.
Jack London a écrit quelques nouvelles autour de la boxe, mais elles ont visiblement connu moins de succès que les livres cultes Cro-Blanc, L'Appel de la Forêt. Ces ouvrages étaient dérangeants pour les critiques de son temps ou trop crus? Qu'est-ce qui ne plaisait pas au public dans ces nouvelles?
Le réalisme cru dont je parlais, parce qu'il y a une phrase de Francis Lacassin que j'aime beaucoup, qui dit que ses récits sont des tranches de vie saignantes jetées à la face de ses lecteurs. Alors oui, c'est cru, mais en même temps, quand vous lisez Cro-Blanc et L'Appel sauvage dans leur version non censurée, c'est aussi violent. Seulement, je pense que le grand public était davantage prêt à se plonger dans des histoires d'aventure, de nature, de grand air, que dans des histoires de ring qui sentent le sang et la sueur.
On a rappelé la fin tragique de la nouvelle L'Enjeu. Quel message souhaitait-il faire passer à travers ses œuvres? Que la boxe est cruelle et implacable?
Oui, comme je disais, la boxe est cruelle et implacable quand on la pratique pour survivre. Alors qu'on n'a déjà plus la force de tenir debout parce qu'on n'a rien à manger ou qu'on a trimé à l'usine pendant des jours et des nuits. C'était la réalité de l'époque. Donc c'est moins la boxe qui est cruelle que la nécessité, en tout cas pour les personnages de London, de devoir mettre sa vie en jeu pour gagner quelques pièces alors qu'on est déjà en fin de carrière, en bout de course.
À l'écoute du récit, c'est vrai que Jack London pourrait être considéré comme raciste parce que lui, il souhaitait la victoire de Jim Jeffries dans le combat historique qui l'oppose à Jack Johnson en 1910 dans le Nevada. Pour autant, il est bon joueur puisque lorsque Jack Johnson gagne le combat, il le félicite. La boxe est pour lui plus forte que tous les préjugés, même ceux dont il pouvait être lui-même victime.
Oui, c'est d'ailleurs un des nombreux paradoxes de London et une des fausses idées qui circulent à son sujet, c'est que London était, comme tous les hommes de son époque, tous les Américains de son époque, persuadés de la supériorité de la race blanche. Et pourtant, dans beaucoup de ses romans et récits, il met toujours en avant les Indiens d'Amérique du Nord ou les Noirs. Il est toujours de leur côté. D'ailleurs, dès le début de ses chroniques, quand il assiste aux préparatifs de ce combat, à l'entraînement des deux boxeurs, on sent qu'il admire vraiment Johnson. Il reconnaît très vite sa supériorité physique, technique, mais aussi son courage, son humour, sa confiance en lui. Alors qu'à côté, il dépeint Jeffries censé être le grand héros blanc comme trop sérieux, presque trop pâle. Mais l'issue du combat le confirme. Sur le ring, c'est pas le boxeur blanc ou le boxeur noir qui gagne, c'est simplement le meilleur boxeur des deux. Et pour London, le meilleur, c'est Johnson.
Mais merci beaucoup, Jennifer Le Sieur, d'être venue avec nous sur cet écrivain mythique qui était monté sur le ring. Je rappelle la biographie que vous lui consacrez, Jack London, disponible en format poche aux éditions Libretto. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit des personnages qui sont montés sur le ring. Après Lino Ventura et Jack London, vous nous racontez Jean-Luc, Édouard Philippe.
Oui, pour le commun des mortels, s'intéresser à la boxe, c'est comme l'a fait Stéphane, se faire tatouer dans le bas des reins une citation de Mohamed Ali. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Pour une poignée d'autres, en revanche, cette discipline est une véritable philosophie de vie. J'aime bien la castagne. Ces mots sont sortis tout droit de la bouche d'un grand homme. À votre avis? Réponse A, Booba. Réponse B, Stéphane Bern à Olivier Mine après un excès de spritz au pot de rentrée de France Télévisions. Réponse C, Édouard Philippe.
Booba.
Castagne.
Vous n'avez pas écouté le personnage de son récit.
Heureusement qu'il y a Olivier qui suit.
Évidemment.
J'avais donné un gros indice et vous l'aviez vous-même annoncé, c'était Édouard Philippe.
Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, t'es mimi, dis-le-moi
doudou. Doudou, pour reprendre son surnom dans les couloirs de Matignon à l'époque. Oui, je vous l'accorde d'être crédible en tant que Premier ministre tout en se faisant surnommer Doudou. C'est un challenge quotidien.
Oui, enfin, tous les Édouards se font surnommer Doudou.
Exactement. Doudou Balladur, on se souvient?
Ben oui. Hein?
Doudou, c'est tendre. Doudou, c'est espiègle. Doudou, il est incapable de mettre des droites. Et pourtant, Doudou Philippe dit aimer la castagne. C'est du moins ce qu'a rapporté un poids lourd de la majorité dans les colonnes du JDD. Il aime la baston et pas seulement dans l'hémicycle. Notre ancien Premier ministre est un véritable passionné de boxe. Comme beaucoup de personnages publics dont le nom de famille est aussi un prénom, Édouard Philippe a une force de caractère hors norme. Claude François, Mireille Mathieu, Guy Georges, pour n'en citer que quelques-uns. Derrière ses costards impeccables se cache un protège-dents bien baveux. Dès que son agenda lui permet, le Premier ministre enfile les gants, écrit le Figaro. Une info accrocheuse et légèrement racoleuse, qui peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Là, comme ça, tout de suite, deux images me viennent en tête. Un jardinier, un proctologue. En l'occurrence, en ce qui concerne Doudou, c'est à la boxe anglaise que le journal fait allusion. Alors, deux grandes questions se posent. La première, quelle est la réelle différence entre la boxe française et la boxe anglaise? Et la seconde, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Bon, la différence, c'est qu'en boxe française, on utilise les poings et les pieds pour porter les coups, alors qu'en boxe anglaise, ce n'est que les poings, et uniquement au-dessus de la ceinture. Oui, Édouard Philippe protège sa coquille. Énarque de quasi 2 mètres, poids indéterminé, barbe taillée. En fouillant dans la vie de ce Stallone du Havre, j'ai eu l'impression d'atterrir sur l'application de rencontre Tinder. Édouard Philippe génère plus d'articles sur l'entretien de sa barbe et la souplesse de ses adducteurs que sur son parcours politique. La boxe, c'est sa manière à lui, dit-on, d'éponger un trop-plein intérieur, de canaliser une énergie qui déborde, comme un enfant hyperactif qu'on aurait inscrit au judo. Pour Édouard Philippe, tout commence en Normandie. Il est élevé par un couple de professeurs de français entre les vaches normandes et les grands classiques de la littérature. Car oui, oreille sensible s'abstenir, chez les Philippe, la télé est interdite. Non, tout n'a pas été rose pour Doudou. Et ce n'est pas tout à l'école, on se moque de ses oreilles. Miroir, c'est celui qui dit qui est, rétorque Édouard. Visiblement pas encore tout à fait mûr pour les grands discours en public. Doudou serre les poings, discrètement, sans jamais renvoyer des coups. Pour se défouler et évacuer sa frustration, il s'essaye dans un premier temps au football. Son rêve, devenir Platini. Sa tête dit oui, mais ses pieds ont l'air moins d'accord avec le projet. Il se lance alors dans les études. Il rentre à l'ENA, encore imberbe, caché derrière de larges lunettes, raconte la presse. On le prédestine plus sur le papier un parcours de clarinettiste que de boxeur amateur. Il milite pour le Parti Socialiste, rêve de se faire tatouer Michel Rocard sur le torse, puis en fait non. Il se rapproche de la droite et devient le protégé de Juppé, avant d'être élu maire du Havre en 2010. Quelques années plus tard, son père meurt. Il se dit alors, j'ai besoin de taper sur quelque chose. Il découvre la boxe. Et il ne s'arrête pas. 3 heures d'entraînement par semaine au Havre. Quand il ne se castagne pas sur le ring, sa fougue déborde parfois en meeting. Lors du congrès fondateur de l'UMP en 2002, il manque de se mettre sur la tronche avec un certain Nicolas Sarkozy, qui a tenté de pénétrer dans la salle au moment du discours de Juppé.
Quelle indignité.
Le 15 mai 2017, un nouveau combat s'offre à lui. Édouard Philippe est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron.
Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Boxe.
Valls, avant lui, avait déjà aménagé une salle de boxe à Matignon pour se défouler. Entre deux conseils des ministres, Édouard va encore plus loin. Insatiable, il saute à la corde, tape dans les sacs, propose à des policiers de son service de sécurité de l'affronter pour tester son niveau d'endurance. Rien ne le fatigue. Sur le mur de son bureau, une photo de Mohamed Ali, son idole. Sympa pour le président. Au cours de ses déplacements, il s'entraîne entre deux rendez-vous sans l'inscrire à l'agenda officiel. La boxe devient sa maîtresse clandestine, son plan coquin régulier. Édouard Philippe aurait pu faire une jolie carrière, car c'est un bon petit boxeur avec une belle droite, sans vouloir faire de jeu de mots. Commente Jérôme Le Banner, star du kickboxing. Après la crise sanitaire, Édouard Philippe s'essouffle. Il est éreinté. Il est dans une lessiveuse, écrit la presse. La boxe n'aura pas suffi. Le 3 juillet 2020, Il remet sa démission à Emmanuel Macron, mais il se montre vite prêt à remonter sur le ring. En septembre de la même année, il affronte pour le plaisir le double champion d'Europe des poids coqs pour un entraînement hors catégorie, durant lequel, il va se faire laminer sans surprise. C'est chiant les petits, lâche-t-il en riant à son adversaire d'1m65. Édouard Philippe aime le sport, la compétition. Et c'est pourquoi j'aimerais finir sur cette belle métaphore sportive signée Édouard Philippe lui-même.
Parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands jeux. Parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter. Voilà, voilà.
Rendez-vous sur le ring en 2027.
La France est une nation qui veut continuer à sucer.
C'est grand caractéristique de la France.
C'est-à-dire, tu te demandes pourquoi ce lapsus linguae. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau? Ah, c'est drôle.
Mais il l'a souvent fait en plus, ce lapsus.
Ah oui?
C'était pas la seule fois.
Sucer plutôt que susciter.
Sucer, il y a un petit souci.
Il y a un petit souci. Une nation, c'est vraiment. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui sont montés sur le ring. Ils sont KO maintenant. Pour retrouver deux garçons qui ne feraient pas de mal à une mouche. Quoique aujourd'hui, restons prudents avec David Casal-Lopez, puisque David, vous nous racontez les origines de la chaise électrique. Mm-hmm. Mais avant ça, comme chaque jour désormais, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls. On remonte au 19e siècle, marqué notamment par l'avènement de la pomme de terre.
Oui, petite question, tiens. Comment faire pour attiser l'envie chez quelqu'un?
Eh bien, faire croire que c'est interdit.
Voilà, lui laisser croire qu'il ne peut pas avoir quelque chose, et vous allez voir que ça marche pratiquement à tous les coups. Alors, entre gratin, purée, frites, pommes vapeur, les pommes de terre en robe des champs, etc., etc., je pense qu'aucun autre légume n'est aujourd'hui autant décliné que cet admirable tubercule qu'est la pomme de terre. Et pourtant, au départ, l'affaire n'était pas gagnée, loin s'en faut, parce que personne ne voulait en manger. Et il a fallu toute la ténacité et même l'ingéniosité, je dirais, d'un homme pour faire avaler des patates aux Français. Cet homme, c'est évidemment Auguste Parmentier, évidemment, qui a laissé son nom.
Dont le laboratoire était aux Invalides, d'ailleurs.
Ouais, qui a laissé son nom à une recette, évidemment inimitable. Un bienfaiteur de l'humanité dont la foi en la pomme de terre a permis non seulement de manger toutes ces délicieuses préparations, mais aussi d'éviter bien des famines. Alors vous l'avez dit, c'est seulement à la fin du 18e et au 19e siècle que la pomme de terre va véritablement s'imposer dans notre pays, devenir un aliment courant. Pourtant, elle a débarqué bien plus tôt, en 1534 en Europe, via l'Espagne, en provenance d'Amérique du Sud. Il faudra donc presque 3 siècles à cette pomme de terre pour atterrir dans nos assiettes.
Bon, faut dire qu'elle avait très mauvaise réputation.
Et oui, on ne la donnait à manger qu'aux animaux, on la croyait toxique pour l'homme. Bref, contrairement aux Anglais qui la mangeaient, les Français n'en voulaient pas. Et c'est là qu'intervient notre ami Parmentier, pharmacien aux armées. Il part en 1757 faire la guerre en Allemagne. Il se retrouve, manque de peau, prisonnier à Hanovre. Et c'est là qu'il va découvrir la pomme de terre et ses vertus. De retour en France, il se penche sur le tubercule. Il l'étudie de près et commence à en faire la promotion. En 1773, il remporte d'ailleurs le prix de l'Académie de Besançon qui récompense des travaux visant à promouvoir de nouveaux végétaux pour l'alimentation à une époque où les famines sont encore monnaie courante. Il reçoit alors le soutien précieux du roi Louis XVI en personne qui déguste et apprécie la pomme de terre. Et Louis XVI, finalement, ira jusqu'à porter à sa boutonnière une très chic fleur de pomme de terre, créant même une mode à l'époque.
Oui, mais c'est facile de convaincre le roi, il fallait encore convaincre le peuple de manger de la pomme de terre.
Et c'est là qu'intervient la fameuse ruse de Parmentier. Il obtient du roi l'autorisation de planter un champ de pommes de terre à Neuilly, sur la route de Versailles. Il fait poser des gardes tout autour du champ, ce qui évidemment intrigue les populations alentours, qui se disent, il doit y avoir forcément quelque chose d'un peu précieux à garder dans ce champ. Les voleurs de patates à l'époque déjà, que les gardes d'ailleurs ont pour ordre de ne pas arrêter, vont en fait être les meilleurs ambassadeurs de la pomme de terre. Et en 1787, Parmentier organise aux Invalides un grand dîner pour la promouvoir. Petit à petit, elle entre dans les cuisines des Français et dès le 19e siècle devient extrêmement courante.
Alors, il a laissé son nom au hachis Parmentier, mais est-ce que c'est Parmentier qui l'a inventé, le hachis Parmentier?
Ce plat, non. Il fait son apparition au début du XXe siècle dans les brasseries parisiennes. Il a été nommé évidemment en l'honneur de l'illustre promoteur de la pomme de terre. C'est un plat astucieux de récupération composé d'une couche de viande hachée, d'où le nom de hachis, généralement du bœuf, une couche de purée de pommes de terre réalisée dans la recette originale avec un peu d'eau de cuisson de la pomme de terre.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup Olivier Pouls. On retrouve évidemment Mes aïeux, quelle époque sur Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Olivier Pouls. Mais vous, David Castro-Lopez, vous voulez absolument nous parler de votre chaise électrique.
Oui, j'ai réfléchi, je pense que la chaise électrique, c'est la moins bien de toutes les méthodes pour tuer les gens. Imaginez, on vous amène dans une pièce vitrée, on vous assoit sur une chaise en bois, particulièrement inconfortable, on vous attache les jambes, les bras, la poitrine avec des sangles, et puis on vous met sur la tête une cloche en métal et une éponge humide pour que le courant passe bien entre la cloche et votre tête. Et là, on vous envoie des centaines, voire des milliers de volts dans le corps pendant 30 secondes. Votre corps devient une immense crampe insupportable. Vous cuisez de l'intérieur et à l'endroit où les électrodes touchent votre corps, vous êtes brûlé au troisième degré. Il y a un juge de la Cour suprême des États-Unis qui s'appelait William Brennan, très célèbre, qui a décrit les exécutions de la façon suivante. Il a dit... Quelquefois, les yeux du condamné sortent de leurs orbites et se posent sur les joues. Il urine, il défèque, il bave, il vomit du sang. Le corps devient rouge vif à mesure que la température augmente. La chair se boursoufle. On entend un crépitement sonore et soutenu qui ressemble au bruit du bacon qui frit dans une poêle. Mais alors, comment et pourquoi on en est arrivé à exécuter les gens de cette façon sordide? Alors, comme avec le grille-pain, dont je vous ai raconté l'histoire récemment, la chaise électrique, elle n'a pu être inventée qu'après l'invention de
l'électricité.
Voilà. Et l'utilisation de l'électricité dans la société de façon un petit peu publique, à votre avis, ça date de quand?
Des années 18...
Les années 20, non, les années
1870, 1870, 1870, 1870, 80,
c'est là qu'on a commencé. L'une des premières villes des États-Unis qui a eu une centrale de production d'électricité, c'était la ville de Buffalo, dans l'État de New York. Et la centrale en question, on pouvait la visiter, c'était assez open. Alors ça peut paraître chelou, parce qu'aujourd'hui, si vous vous présentez dans une centrale de production d'électricité en France, on va vous dire, ben non, tu rentres pas.
Surtout chez les nucléaires.
Voilà, exactement, enfin même les autres. Mais en fait, c'était stratégique, c'était une question de com. En laissant les gens entrer dans les centrales et regarder comment l'électricité était faite, on voulait dissiper la peur de la nouveauté dans le public. Et un jour... Et on connaît ce jour, c'était le 7 août 1881. Il y a un docker de la ville qui s'appelait George Smith qui était en train de se bourrer la gueule avec des amis dans une taverne du coin. Et il a dit, et vous savez quoi les gars, je vais aller à la centrale et je vais arrêter le générateur d'électricité juste avec mes mains. Si, je vais faire ça. Et ils sont sortis, hein, tous ensemble, complètement bourrés. Ils ont marché jusqu'à la centrale. Et là, George, il a mis ses deux mains sur le générateur. Et il est devenu tout raide, de partout. Et quand on a enfin réussi à éteindre la machine, il est tombé par terre, mort, comme un caillou. Et peu de temps après, cette histoire, elle est arrivée aux oreilles d'un autre monsieur de Buffalo, qui s'appelait Alfred Southwick. Alfred, il était dentiste, mais il aimait aussi beaucoup inventer des trucs. Et quand il a appris l'histoire de la mort par électricité du monsieur dans la centrale, mort qui avait semblé immédiate et sans douleur, il s'est dit « Wow ! Comment ce serait trop bien comme méthode d'exécution capitale ?» Alors, il s'est mis au travail immédiatement avec un ami à lui. Il a d'abord inventé un dispositif avec une bassine d'eau et des électrodes qu'il a testé sur les chiens errants de la ville de Buffalo. Voilà, vous avez...
vous n'avez pas réagi tout à l'heure
à la mort de George Smith. Mais la mort d'un chien dans une bassine vous fait de la peine. Et ça marchait très bien parce que les chiens de Buffalo mouraient immédiatement dans la bassine d'eau. Et puis, il est passé à des versions pour les gens. Et son idée, elle tombait très très bien, puisqu'au même moment, l'État de New York cherchait des alternatives à la pendaison pour exécuter ses prisonniers. Pourquoi il cherchait des alternatives? Eh bien parce qu'il y avait une suite de pendaisons foirées où les condamnés à mort restaient suspendus pendant 30 minutes en train d'agoniser comme des merdes. Et donc, il se disait, ce serait bien d'avoir quand même quelque chose de plus humain. Alors, l'État de New York a mis en place une commission à laquelle a participé le docteur Southwick, le dentiste de Buffalo, et ils ont fini par se prononcer collectivement en faveur de la chaise électrique. Et le 6 août 1890, la première exécution à l'électricité de l'histoire du monde a eu lieu à New York. Le condamné, il s'appelait William Kemmler. Il avait tué sa petite amie à coups de hache. On l'a attaché à la chaise. Il a dit « Messieurs, je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde. Je pense que je m'en vais vers un endroit plaisant. » Et puis le bourreau a dit « Goodbye William ». Il a allumé la chaise. Et là, tous les témoins racontent que ça a été abominable. La première décharge, elle a duré 17 secondes. On a éteint le courant. Mais en fait, William, il n'était pas mort. Il continuait à respirer avec un râle comme ça. Alors on lui a remis du jus. En tout, il s'est passé 8 minutes avant qu'il ne meure tout à fait. Pourtant, ça n'a pas empêché la chaise électrique d'être largement adoptée aux États-Unis. Ça a même été pendant un moment la méthode d'exécution la plus fréquente aux États-Unis. Il y a 4500 personnes en tout qui ont été exécutées comme ça depuis 1890. Mais pratiquement que aux États-Unis. Le seul autre pays du monde qui a adopté la chaise électrique pendant un moment, c'était les Philippines. Alors aujourd'hui, quand même, la chaise électrique, elle est en déclin. En gros, elle a été enlevée d'à peu près tous les États et elle est plus utilisée que dans certains États, de façon optionnelle. C'est-à-dire, il faut que le condamné à mort demande spécifiquement la chaise électrique pour être exécuté
et
comme
sinon,
ça.
Sinon, il demande quoi ? Une injection létale ?
Une injection létale. Il y a d'autres méthodes encore. Il y a pas si longtemps, il y a eu un peloton d'exécution qui a été demandé par un condamné à mort aux États-Unis. Le dernier condamné qui a demandé la chaise électrique, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2020. Il a préféré ça à l'injection létale.
Il paraît que si on en réchappe, on est gracié et libéré.
Alors ça, je ne connais pas cette méthode, ça, mais ouais. On réchappe.
Comment vous voulez réchapper ?
Parce que un dysfonctionnement de la chaise ou
une grève de.
Parce que la règle, c'est que si vous n'êtes pas mort après la première décharge, on vous en met jusqu'à ce que vous mouriez. Donc,
en tout cas, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci. C'était un plaisir. David, oui,
vous parlez de bacon gris.
Oui. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Dailymotion et sur le site Europe1.fr. Vous pouvez également, d'ailleurs, y retrouver toutes nos émissions. Voilà, Historiquement Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois odieuses empoisonneuses. La marquise de Brinvilliers, qui a trempé dans l'affaire dite des poisons sous le règne de Louis XIV. Puis une tueuse en série qui utilisait l'arsenic comme seule arme, Hélène Jégado.
Et moi, je vous raconte la veuve noire de la Côte d'Azur, qui n'avait pas que du parfum dans son sac. Patricia Dagorn.
Non, j'ai déjà peur.
Ah bah vous pouvez, surtout qu'elle nous écoutera certainement.
Bah vous ferez bien attention à ce que vous dites, hein, Jean-Luc. À demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.